Mes frères bien-aimés, c'est tout de même un récit étonnant auquel nous venons d'assister. Celui d'une femme qui parle et qui, par sa parole, fait danser un embryon. Que nous ayons affaire à la Sainte Vierge, la plus sainte de toutes les créatures, et à Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, y est pour quelque chose, cela est sûr. Pour autant, je pense que la vérité qui est dévoilée dans ce récit dépasse ces deux seuls personnages et nous rejoint tous. Et cette vérité, la voici, nos actes ont un impact sur l'univers qui nous entoure et un impact dont nous ignorons souvent l'ampleur. Regardez, la Mère de Dieu, par une petite salutation, une seule parole, un simple son, fait bondir le précurseur qui est encore dans le ventre de sa maman. Il en faut donc pas grand-chose pour ébranler les réalités qui nous entourent. Un seul mot suffit. Eh bien, mes frères, cela doit nous amener à prendre de nouveau au sérieux tout ce que nous faisons. Nos actes, même les plus infimes, ne sont pas anodins. Une pensée, une parole, un geste, tout cela a des conséquences, bonnes ou mauvaises, et parfois des conséquences importantes, pour le meilleur ou pour le pire. Et cela vaut également si l'acte en question est adressé à des êtres qui apparemment n'en sont pas impactés. Un fœtus, une personne éloignée physiquement, un homme dans le coma, un sourd, un handicapé mental, un vieux sénile. Même dans ces cas, l'impact est bien réel, le mystère de la visitation nous le prouve. Oui, frère bien-aimé, nous devons le reconnaître, chacun des actes que nous commettons imprime une marque sur nous et autour de nous. Et cette marque, une fois qu'elle est là, on ne l'enlève pas comme ça. Que voulez-vous ? Nous ne sommes pas des ardoises que l'on efface d'un coup de chiffon. Nous sommes de l'argile qui prend la forme de chacun des doigts qui l'effleurent. Vous savez peut-être que l'on dit de Dieu qu'il est acte pur, autrement dit que son être et son action ne font qu'un. Eh bien, il faut que nous pensions de la sorte à notre sujet. Ce que nous faisons façonne ce que nous sommes. Je crois que personne n'a mieux synthétisé cette affaire que le jésuite Yves de Montcheuil, dont l'intelligence était éblouissante, mais qui a été arrêté en plein vol à seulement 44 ans, fusillé par les nazis. « Ce n'est pas assez de dire que nos actes nous suivent », affirmait-il. « Il faut dire que nos actes nous changent. » Ceci est vrai en bien comme en mal. Et nos actes nous changent non seulement parce qu'ils sont source de mérites et de démérites qui seront sanctionnés dans l'au-delà, mais parce qu'ils transforment nos manières de juger. Bien souvent, constate Yves de Montcheuil, avant de nous permettre une faiblesse, nous disons « j'irai jusque-là, mais pas plus loin. Je prendrai un quatrième verre, mais pas plus. Je prendrai une troisième part de gâteau, mais pas plus. » En fait, ce propos est absurde. Non seulement parce que l'acte posé tend à créer une habitude qui rend plus difficile ensuite la résistance, mais beaucoup plus radicalement, parce que nous ne pouvons savoir si nous jugerons encore de la même manière après l'acte, et si ce qui nous paraissait odieux et inadmissible ne nous paraîtra pas bon et désirable. Ce n'est pas tout à fait la même personne qui juge après l'acte et qui jugeait avant. En un mot, on s'engage dans un engrenage dont on ne peut pas dire exactement où il nous mène. C'est bien vrai, mes frères, nos actes nous maîtrisent et nous entraînent dans leur mouvement. Eh bien, cela a quelque chose de redoutable, poursuit Yves de Montcheuil, car un manque de générosité, même petit mais consenti, peut marquer le point où notre vie change de sens. On dira « c'était pas un gros péché », soit. Mais c'est peut-être là qu'on a commencé à ne plus redouter comme auparavant une faute grave. Lorsque quelqu'un glisse sur une pente et va s'abattre après une chute à pic au bas de la falaise, il est vrai de dire que c'est la chute seule qui le tue. La glissade en elle-même n'est pas mortelle. Cependant, un témoin de la scène pourra dire qu'à partir de ce moment où il a glissé, il était perdu. Mais cette vérité offre aussi son côté consolant, car notre générosité nous rendra plus tard capables de ce que nous ne pouvions pas tout d'abord. Ce qui paraissait impossible, objet de répugnance, devient doux et acceptable. C'est pourquoi il ne faut pas se préoccuper à l'avance. Il ne faut pas se demander avec angoisse « Comment ferais-je si j'étais dans telle circonstance ? S'il m'était demandé un jour ce que je vois demander à tel autre ?» Car nous ne savons pas l'état dans lequel nous serons, le jour où cela pourra nous être demandé en effet. Ce qui est utile, conclut le jésuite, c'est donc de se préparer aux exploits de demain par la générosité quotidienne, par la fidélité à ce qui est le devoir d'aujourd'hui. Et pour cela, il faut éviter les préoccupations inutiles. Mes frères, je crois que le propos de ce bon prêtre du début du XXe siècle est assez net pour que les mots de Coco Chanel « Oui, vous ne rêvez pas » ne nous paraissent pas aberrants, mais d'une grande pertinence. « Tout ce que je fais, disait-elle, je le fais avec passion. Il n'est pas une chose que je l'entreprenne en me répétant que ma vie tout entière dépend de cette chose isolée. » Ceci étant bien établi, je voudrais m'arrêter quelques instants sur un aspect souvent négligé de nos existences, la parole. Si les mensonges et les trahisons ne sont pas légion, en tout cas je l'espère pour nous tous, force est de constater que les médisances dévastatrices, les insultes humiliantes, les gros mots dégradants, les moqueries blessantes et les remarques ironiques vont bon train. Nous nous justifions alors intérieurement en nous convainquant que ces quelques paroles ne vont pas faire tant de mal que ça et que la personne visée s'en remettra bien vite. C'est là faire complètement fausse route, mes frères. Et c'est sainte Faustine qui nous avertit. La langue peut engendrer la vie, mais aussi causer la mort. Et nous tuons plus d'une fois avec notre langue. Nous commettons de véritables meurtres. J'ai connu une personne, nous confie la sainte Polonaise, qui, ayant appris d'une autre qu'on avait dit telle ou telle chose sur son compte, tomba gravement malade. Elle perdit beaucoup de sang, versa beaucoup de larmes, et ainsi jusqu'au dénuement fatal, qui fut ainsi l'effet non d'un glaive, mais de la langue. Bien sûr, il s'agit là d'un cas extrême, mais pas si rare que cela. D'autant que la médecine actuelle a montré à quel point un choc émotionnel pouvait entraîner des pathologies physiques lourdes. Il n'y a pas que les bactéries qui rendent malades, il y a aussi les mots durs. Le poète allemand Rainer Maria Rilke, qui s'y connaît donc en matière de langage, abonde dans ce sens. « Il est nécessaire d'être très prudent avec les mots », nous prévient-il. C'est souvent à cause du nom donné à un crime qu'une vie se brise, et non à cause du crime lui-même, qui eût pu sans doute être assumé sans peine. Ce que nous dit ici Rilke, c'est que les mots ont une consistance. Ils ne sont pas légers comme l'air. Aussi, ils atteignent et modifient les réalités dont ils traitent. Par exemple, si vous dites tous les jours à un homme qui a commis un meurtre que c'est un meurtrier, petit à petit, il va s'enfoncer dans une désespérance noire et n'en sortira plus. On appelle cela un lavage de cerveau, et croyez-moi, ils ne sont pas seulement présents dans les dictatures, dans les sectes ou dans les films. Il y en a de très subtils que nous faisons subir, en particulier aux membres de nos familles, en disant régulièrement par exemple à son enfant qu'il n'arrivera à rien dans sa vie, qu'il est moche comme un pou ou qu'il est bête comme pas deux. Je vous en supplie, ne nous disons plus jamais que ce que nous prononçons n'a pas d'importance. Les sons émis par notre bouche ont un poids. Donc, comme le conseille si bien l'expression, pesons nos mots. Bon, frère bien-aimé, je crois que nous avons compris ce que notre douce Mère du Ciel et notre vaillant Jean-Baptiste ont voulu nous dire ce matin, à savoir que chacun de nos actes a sa résonance dans l'univers. Veillons donc sur eux, même s'ils nous semblent insignifiants, car ils ont un retentissement bon ou mauvais qui élève l'humanité ou la rabaisse. Prenons donc le parti de la bonté, ayons des pensées stimulantes, des paroles constructives, des gestes encourageants. Nous entraînerons par là notre monde dans le cercle vertueux du bien, celui-là même qui qui a amené le Fils de Dieu à s'incarner dans les tables de Bethléem, ce qui est jusqu'à aujourd'hui le plus féerique de tous les événements de notre histoire humaine. Amen.